Alors, je vais prendre un peu les idées de Jeremy et suivre cette piste de la littératie numérique. Et vraiment, la question de l'éducation et la formation en archéologie numérique aujourd'hui. Alors, il y a déjà eu beaucoup de questions aujourd'hui à propos de la terme réutilisation. On a une grande histoire avec l'idée de réutilisation des données. Au passé, c'était vraiment l'idée de dépoussiérer des vieilles collections pour tester des nouvelles hypothèses ou faire un nouveau type d'analyse. Mais comme tant de choses, l'émergence combinée des ordinateurs et puis l'Internet a vraiment transformé cette question ou cette discussion de l'idée de réutilisation. Et vraiment, c'était considéré comme la solution à la problème. Des données en accès ouvert, plus facile à trouver, plus facile à consulter, plus rapide de réutiliser, va rapidement changer les idées et les pratiques des chercheurs parce que ça va être beaucoup plus facile pour eux. Je pense que beaucoup d'entre nous conviendraient que la réalité n'était pas aussi simple que ça. En fait, j'ai l'impression vraiment que nous avons parlé de rien d'autre pendant des années maintenant. C'est sûrement une exagération, mais il y a tellement de différents types de protocoles, de principes, de guides qui ont été proposés. L'un des plus connus et qui est déjà discuté aujourd'hui, FAIR, est vraiment l'idée de développer un système de protocoles qui sont vraiment universels. Ils ont pris des idées de beaucoup de différentes disciplines pour qu'il y aura quelque chose qui est vraiment universellement applicable. Ils mettent l'accent vraiment sur l'amélioration de la capacité des machines à trouver et utiliser automatiquement les données grâce à l'amélioration de l'accès, de l'utilisation, l'interopérabilité, etc. Ainsi, c'est vraiment la souplesse des données à combiner et à être réutilisées de différentes manières par des systèmes vraiment automatiques. Cependant, malgré des innovations successives des données numériques en archéologie et des sciences humaines en général, nous continuons à lutter contre les faibles taux de réutilisation, un archivage à long terme qui est vraiment inefficace et les réalités vraiment compliquées du patrimoine en accès ouvert. Alors, en 2018, j'avais l'opportunité de présenter ma première évaluation du système de FAIR et j'étais particulièrement critique à ce point-là, de sa fixation sur des systèmes techniques et méthodologiques pour améliorer la réutilisation des données et l'absence d'un sens de humanité, pardon, dans ce cadre-là. Avec ce petit jeu de mots, Making Archaeology Fairer, c'est-à-dire rendre l'archéologie beaucoup plus équitable, je me demande toujours comment rendre les données numériques équitables, particulièrement quand leur création et leur gestion continuent d'être vraiment associées avec des institutions et des disciplines qui ont des racines inéquitables, même coloniales. Alors, qu'est-ce qui est un système de données équitable? Je vous remercie vraiment pour l'occasion de revenir sur ces questions. Et dans ce même esprit, je voudrais ajouter une autre lettre E. Cette fois-ci, je souhaite insérer un autre sens d'humanité, je crois. Et c'est vraiment l'idée d'enseigner la création, la gestion et la réutilisation des données en archéologie. C'est une question de comment savoir faire l'archéologie numérique aujourd'hui. Récemment, il y a eu de nombreuses publications qui ont souligné le manque d'éducation en matière de pratiques numériques comme le principal obstacle à la mise au point des systèmes de données numériques durables et efficaces en archéologie. Ces auteurs ont plaidé en faveur des systèmes de formation plus systématiques et formalisés, ainsi que de plus grandes possibilités d'avancement professionnel et des meilleurs systèmes pour financer et récompenser une pratique numérique forte aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une partie de cet écosystème numérique. C'est la formation, mais aussi d'assurer qu'il y a une place pour tous ces étudiants d'archéologie aujourd'hui dans un système durable. D'un point de vue pédagogique et disciplinaire, il ne s'agit plus de savoir si un archéologue souhaite devenir un archéologue numérique, mais plutôt de savoir comment mieux guider et soutenir tous les archéologues dans leur processus de devenir des chercheurs, des chercheuses à l'ère du numérique. Nos méthodes, nos cadres, nos approches pour comprendre le passé ont été complètement transformées depuis plus de 60 ans. Mais en général, nos systèmes de formation n'ont pas été transformés du tout, au moins pas de la même rythme ou la même intensité. Et je crois que ça revient à deux mythes dans la pédagogie aujourd'hui pour l'archéologie. Au début du siècle, Mark Prunsky a postulé qu'une génération post-1984, marquée pour la sortie des jeux vidéo, ayant grandi, immergé dans un monde de technologie de plus en plus omniprésent, devrait être considérée comme des natives numériques, distinctement différents dans leur apprentissage et leur comportement des immigrants numériques, ceux qui sont nés après ou avant 1984, qui a eu effectivement juré le rattrapage dans le développement des compétences numériques. Aussi séduisant que ce soit cette idée, particulièrement pour les enseignants, on peut dire « Ah, mais ils vont connaître le numérique », elle est de plus en plus remise en question par des études indiquant que la génération post-1904 n'est pas plus naturellement capable et adaptée aux technologies, mais d'un grand problème est que cette génération est vraiment adaptée à une boîte d'outils qui est vraiment simple, est vraiment limité. Alors, il ne sait pas toujours comment s'adapter ou apprendre des nouvelles technologies, particulièrement avec la rapidité de développement en technologie. Le deuxième mythe de formation en archéologie, c'est le mythe d'auto-apprentissage, c'est-à-dire l'idée qu'on n'a pas besoin d'apprendre l'archéologie numérique à l'école, on peut l'apprendre indépendamment, avec nos emplois ou aussi nos activités de recherche le nécessitent. Alors, la majorité, je crois, des archéologues numériques aujourd'hui s'identifient comme des autodidactes. Nombreux ont dit qu'il n'y avait pas des opportunités à l'école ou ils étaient formés dans des autres disciplines avant de joindre à l'archéologie. Mais on voit de plus en plus d'archéologues numériques qui disent qu'ils ont fait des énormes erreurs dans le système d'apprendre parce qu'il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de mentorat. Alors, il y a ce besoin d'avoir un système plus prolongé, plus développé dans nos formations archéologiques parce que les erreurs avec le patrimoine, particulièrement avec le patrimoine de notre culture, de notre communauté, c'est une erreur qui est vraiment grave. Ça a un impact pour des communautés aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qu'on doit gérer. Et je crois que vraiment, les systèmes de formation ont des solutions pour ça. De l'autre côté, on voit de plus en plus qu'il y a l'addition des formations numériques dans les programmes archéologiques aujourd'hui. Mais il y a toujours d'autres enjeux. Après avoir enseigné l'archéologie numérique dans trois provinces au Canada et aussi une université du Royaume-Uni, je vois toujours qu'il y a des obstacles à l'enseignement et j'ai essayé de catégoriser ces obstacles. Mais je crois aussi qu'il y a des différents niveaux d'obstacles. Au niveau peut-être le plus superficiel, les niveaux extrêmement variables de compétences numériques de nos étudiants entrent toujours un système de problématiques dans nos salles de cours. C'est vraiment un grand défi pour la conception de cours parce qu'on doit comme développer des systèmes individuels pour chaque étudiant. Parce que chaque étudiant aura des compétences différentes déjà et aussi peut-être va trouver des systèmes plus faciles à apprendre. Alors, il y aura souvent beaucoup de mentorat individualisé, des tâches, des conseils individualisés, ainsi qu'une conception pédagogique très flexible. Alors, ça doit adapter chaque semaine d'un cours, mais aussi chaque groupe d'étudiants. D'après mon expérience, toutefois, il s'agit rarement de la barrière la plus difficile à l'enseignement de l'archéologie numérique. Je trouve souvent que les attentes et les attitudes des étudiants continuent d'être une grande barrière. Et ça revient à l'idée aussi de ce qui est l'archéologie, les systèmes de systems of rewards que Jeremy a parlé. C'est vraiment cette idée qui est déjà intégrée dans les attitudes des étudiants, que c'est la nouvelle recherche, les nouvelles données qui va être vraiment acceptée dans la discipline. Et je trouve que c'est vraiment introduit à les étudiants pendant leur première année à l'université. Alors, l'apprentissage des numériques doit être vraiment intégré dans tous les niveaux, du premier cycle au troisième cycle, qu'il devrait être vraiment une approche plus globale pour incorporer des différents systèmes et des différents enjeux numériques. Cela commence en partie avec l'idée d'enseigner les enseignants. Et c'est une étape qui est souvent manquée dans les universités. Il existe très peu de possibilités de formation au niveau des professionnels, des professeurs, en compétences, outils et approches numériques, particulièrement encore avec cette idée que ces techniques développent tous les jours. Et encore moins de soutien institutionnel à la formation complémentaire tenant compte de ces révolutions. Cela réduit la capacité des enseignants de vraiment donner des cours qui sont à la jour, actuels. Mais aussi, c'est un grand problème avec les systèmes universitaires. Les professeurs sont déjà surchargés et puis ils devraient encore trouver des moyens d'être formés avec à ces différentes et nouvelles technologies. Alors, c'est beaucoup de responsabilités et aucun soutien de la côté d'infrastructure des universités. Il existe de plus en plus d'ouvrages au sujet de la pédagogie en archéologie numérique. Donc, je ne vais pas parler trop de ce système de pédagogie, mais je crois qu'il y a certains éléments qui sont nécessaires pour la formation numérique qui sont parfois contre-intuitifs. Souvent, nous mettons vraiment l'accent sur les outils, les méthodologies, les approches numériques, mais toutes ces choses vont vraiment changer. On sait ça déjà. Alors, je crois que, et je trouve que c'est souvent plus important, il y a plus de valeur dans l'idée d'apprendre comment apprendre des systèmes numériques. Alors, si tu peux apprendre un langage de programmation, un type de base de données, c'est plus facile la prochaine fois quand tu dois apprendre quelque chose de différent. L'échec est aussi un processus vraiment important dans l'apprentissage numérique. Alors, la formation ne devrait pas être basée sur les idées de perfection. C'est souvent notre système pédagogique à l'université, c'est vraiment la perfection. Mais concevoir des notes et des projets sans pénaliser les échecs sont vraiment importants pour les numériques, particulièrement parce que les étudiants ont déjà beaucoup d'idées comme « je ne peux pas apprendre les numériques, les ordinateurs sont evil ». Il y a cette idée qu'il y a des problèmes déjà, c'est dans nos têtes. Alors, si nous pouvons créer des systèmes pour apprentissage, mais sans cette idée que s'il y a un problème, s'il y a un échec, que ça va être la fin de leur carrière. De la même côté, c'est facile de simplement transformer tous nos projets et tous nos cours dans des travaux numériques. Mais la réalité aujourd'hui est que l'archéologie est encore une discipline hybride. Il y a un côté analogique qui est assez important. Et nous travaillons souvent avec des vrais objets, la matérialité. Et beaucoup de nos méthodes sont hybrides aussi. On va faire un dessin, mais aussi prendre une photo numérique. Il y a des différences, mais il y a aussi des différents avantages de chaque système. Alors, quand on crée des projets qui sont juste numériques, on a fait cette décision déjà pour nos étudiants. Ils n'ont pas cette opportunité d'examiner les avantages, les désavantages, et aussi de voir des fois que c'est mieux d'avoir les deux. Et finalement, c'est important de reconnaître aussi que l'archéologie numérique n'est pas individuelle. Ça prend beaucoup de différents experts, ça prend beaucoup de différentes communautés. Alors, je crois que nous devrions encourager les activités individuelles et collaboratives dans la formation numérique, mais aussi par la modélisation de ce comportement. Par exemple, les gestionnaires des données numériques sont souvent ravis de collaborer avec des cours car ils voient une opportunité d'enseigner des nouvelles générations d'archéologues d'utiliser leur système. Mais aussi, les étudiants voient des professionnels, des opportunités pour eux de développer des compétences professionnelles aussi. Et c'est aussi une opportunité pour les enseignants. Ils ne devraient pas être nécessairement des experts dans ce système, mais avec les collaborations, on peut remporter des différents types d'expertise dans les salles de classe. Alors, vraiment, je crois que la formation en archéologie numérique ne consiste pas nécessairement à réinventer la roue, mais à trouver des moyens vraiment intelligents de la rendre plus performante pour répondre aux besoins des archéologues aujourd'hui, mais aussi au futur. En pensant à cela, un petit bémol, souvent lorsque nous discutons la culture numérique et la transformation de l'éducation et la formation, nous nous concentrons vraiment sur le savoir-faire technique, les outils, les compétences, les méthodes, les logiciels, les matériels spécifiques. Mais cela fait perdre beaucoup de la complexité qu'on a déjà vue aujourd'hui et hier avec les ateliers. Et c'est vraiment les niveaux sociaux, éthiques et politiques, par exemple. Alors, la littératie numérique, je crois, ne devrait pas être réduite à cette idée de savoir-faire technique. Afin de vraiment mettre l'accent sur ce côté qui est vraiment au-delà de la technique, j'espère que vous me permettrez d'ajouter deux autres lettres E, et c'est l'équité et l'éthique. Et ce sont là mes principales préoccupations concernant les protocoles de gestion de données numériques qui se concentrent vraiment sur le côté technique. Les données numériques, particulièrement avec l'archéologie et le patrimoine, comme j'ai dit, il y a un côté qui est beaucoup plus grand et compliqué, même que les lois et les systèmes juridiques. Il y a des côtés qui sont vraiment impliqués dans des communautés tout autour du monde et des histoires, des problèmes historiques avec le colonialisme, par exemple. Il faut alors commencer par repenser la communauté d'archéologie numérique. Ce n'est pas vraiment juste limité aux étudiants et professionnels en archéologie, mais inclut aussi les communautés de descendants, le grand public, les gouvernements, les institutions, etc. Et c'est vraiment une grande communauté qui transforme cette question de qui devrait être formés à l'archéologie numérique. Ce n'est pas juste des étudiants d'archéologie qui sont à des universités, mais si on veut que le grand public est vraiment sensibilisé à l'idée d'archéologie numérique et les valeurs, il faut que nous ouvrons les portes à la formation archéologique numérique. Nous travaillons souvent avec, je crois, des œillères en matière de technologie, en vraiment concentrant entièrement sur l'innovation. Encore une fois, c'est une question de cette idée de créer quelque chose de nouvel tout le temps. Mais l'inclusion d'une communauté plus diverse contribuera à transformer notre relation avec les données archéologiques aussi. Cependant, je pense que nous pouvons commencer à dessiner les contours d'une nouvelle archéologie qui commence à se solidifier autour des frontières d'archéologie, muséologie, pratique du patrimoine et aussi des efforts de décolonisation, c'est-à-dire tous les efforts visant à déconstruire les structures colonial, autoreproductrice d'iniquité, d'exclusion, de contrôle et de discrimination qui sont intégrées dans la recherche archéologique, dans nos lois, dans l'éducation et dans l'accès à le patrimoine aujourd'hui. Je sais que je viens d'une perspective vraiment canadienne, mais quand même, ces enjeux sont importants pour la France aussi. Les universités et les musées sont pleins d'objets et de restes humains de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie, du Pacifique. Et les efforts pour le rapatriement sont souvent bloqués, il y a des appels ignorés. Mais aussi, il y a un manque de diversité dans nos institutions. Alors, c'est une communauté assez limitée qui font des décisions à propos du patrimoine du monde entier. Dans cette perspective, nous avons beaucoup de travail à faire pour consulter les communautés de descendants, mais aussi le grand public. Ils ont une perspective aussi importante sur les approches appropriées pour créer, gérer et utiliser des données numériques en archéologie. Je soulève cette question dans le contexte de la pédagogie, car les étudiants doivent absolument être intégrés dans ce processus de consultation. La réalité est que la technologie continuera à évoluer et se développer. Alors, c'est important que les étudiants aussi comprennent comment faire la consultation et comment utiliser ces consultations pour développer des systèmes qui sont plus équitables. Alors, de vraiment intégrer des étudiants dans ce dialogue va développer aussi une discipline plus durable pour l'avenir et aussi changer des systèmes éthiques dans nos communautés aussi. Alors, je crois vraiment que ce côté éthique et social est vraiment important aussi dans la littératie numérique. Et enfin, la protection et le soutien des chercheurs et des chercheuses aujourd'hui est plus important que jamais. Il y avait la question à propos de human cost. Et je crois que c'est une grande question aujourd'hui. L'emploi est extrêmement précaire. Il existe une proportion à traiter le travail numérique avec des contrats courts, ou voire pire, avec des étudiants bénévoles. Il existe des relations très complexes entre la numérisation et les droits d'auteur, la propriété intellectuelle et la citation. Mais je vais aussi ajouter que ces menaces ont une tendance à toucher principalement des chercheurs et des chercheuses déjà marginalisés en archéologie et vont contre les efforts de diversification de l'archéologie. Et c'est un cadre qui est le plus problématique pour les étudiants. Alors, créant des communautés d'étudiants qui sont de plus en plus diverses, et puis il n'y a pas de place pour eux dans ce système que nous avons créé. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de poste d'emploi après leur formation. Je pense donc qu'il est essentiel qu'une discussion sur la culture numérique dans l'éducation archéologique considère aussi le rôle de la professionnalisation, mais aussi le soutien long terme pour les étudiants. Ce n'est pas assez de leur donner tout simplement ces compétences. Il faut travailler à un niveau comme défenseur des chercheurs et chercheuses en début de carrière et transformer vraiment le système plus globalement. Alors, ce n'est pas juste une question de la culture numérique en archéologie, c'est vraiment une question des systèmes d'archéologie plus grands. Ce qui nous ramène à la question « Comment savoir faire l'archéologie numérique? » La réponse est vraiment probablement trop compliquée pour 30 minutes aujourd'hui, mais repose vraiment sur cette question des programmes, de la formation, mais aussi la transformation de nos structures et de nos protocoles en général et de l'incorporation des nouvelles générations d'archéologues dans ces systèmes de consultation et transformation pour créer un écosystème qui est beaucoup plus durable et j'espère beaucoup plus éthique et équitable aussi. Merci.